trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus ou moins calme.
You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur O2 Radio en ce mardi 24 février 2026. Il est 14h pile. Oui, encore, comme hier et comme demain, sans doute. Aujourd'hui, après 2 semaines d'absence, nous allons vous emmener à nouveau dans l'univers du ciné-sang, l'univers du cinéma, pour y découvrir des personnages hauts en couleur et des histoires incroyables. Alors bien sûr, je ne suis pas toute seule pour ce voyage dans le 7e art. Je suis accompagnée, comme toujours, par mes 2 collègues du grand écran qui connaissent à eux deux la grande et la petite histoire du cinéma, de ses anecdotes les plus secrètes aux scandales les mieux renseignés. Vous avez peut-être connu ces 2 puits de science. Bonjour Jean-Jacques et bonjour Patrick.
Bonjour Adelise, bonjour Jean-Jacques. Bonjour,
vous allez bien?
Oui, ouais, va, aussi oui, bien que possible, oui.
Oui, vous êtes bien reposé?
Pas du tout.
Pourquoi on serait fatigué? On n'est pas fatigué.
Ouais, pas, vous n'êtes pas reposé on pendant ces 2 semaines?
Ah fatigué. Oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu pendant 15
oui,
jours.
Oui,
non, mais il y en a qui travaillent. Hein.
Ah, ah pardon. Oui, mais bien sûr.
Allez, embarquement immédiat dans l'épisode numéro 17 de Ciné-sang.
Qu'est-ce qu'on fait?
Fermez les yeux.
D'accord.
La salle est plongée dans le noir, l'écran s'allume et soudain, une scène disparaît. Hop, coupée, interdite, supprimée. La censure au cinéma n'est pas une fiction, elle fait partie de son histoire. Dans les années 30, Hollywood s'impose une morale stricte avec le code Hays. Impossible donc de montrer l'adultère sous un jour favorable. La sexualité est soigneusement édulcorée et le crime ne doit jamais triompher. Tiens, Hitchcock doit rivaliser d'ingéniosité pour contourner les règles. Dans Les Enchaînés, par exemple, il découpe un simple baiser en plusieurs plans pour ne pas dépasser la durée autorisée à l'écran. Oui, on limitait le minutage des baisers à l'époque. Mais la censure est aussi politique. En 71, par exemple, Orange Mécanique de Stanley Kubrick choque par sa violence. Le film est retiré des salles britanniques pendant près de 30 ans. Vous vous rendez compte, 30 ans. En 74, en France, Les Valseuses de Bertrand Blier provoquent un scandale retentissant pour sa liberté de ton et sa sexualité crue. C'est le moins qu'on puisse dire. Plus récemment, en 2015, Love de Gaspard Noé est interdit aux moins de 18 ans en raison de ses scènes explicites. Et comment ne pas évoquer la dernière tentation du Christ de Scorsese qui déclenche manifestation et interdiction à sa sortie en 1988. Alors dans certains pays, la pression est encore plus forte. Le réalisateur iranien Jafar Panahi a été condamné à une interdiction de tournée, mais il a pourtant continué à filmer clandestinement. En Chine, plusieurs œuvres sont tout simplement invisibles sur le territoire. Certains sujets restent tabous, comme par exemple la critique du Parti communiste, la représentation jugée négative de la société. Alors parfois, la censure peut être économique. Un film trop polémique aura du mal à être financé. Elle peut être sociale, la censure. Aujourd'hui, les controverses et les campagnes sur les réseaux sociaux peuvent freiner, modifier ou empêcher certaines productions. Alors, où s'arrête la protection du public et où commence la censure? Les classifications d'âge visent à encadrer. Mais interdire totalement, est-ce protéger ou contrôler? Ce que l'histoire nous montre, c'est qu'un film censuré est souvent un film qui dérange son époque. Ce qui choque hier devient parfois un classique aujourd'hui. Au fond, la censure révèle une chose. Le cinéma a du pouvoir. Celui de questionner, de provoquer, de faire réfléchir. Et tant que les images auront cette force, elles seront, d'une manière ou d'une autre, surveillées.
Messieurs les censeurs, bonsoir.
Bon alors, si vous n'avez jamais entendu parler du film Le Franc-Tireur, eh ben c'est normal. Oui, il fut censuré et privé de sortie en salle en 72. Il est arrivé sur les écrans de cinéma 30 ans plus tard. Et ce n'est qu'en 2024, il y a 2 ans quoi, qu'on a pu le redécouvrir en DVD. L'œuvre a suscité un tel scandale que ces 2 réalisateurs, Jean-Max Cos et Roger Taverne, n'ont plus jamais réalisé de film après cela. Ce film a été interdit pendant 30 ans par le pouvoir gaulliste, peut-on lire en guise de préambule dans l'édition vidéo. Mais pourquoi Le Franc-Tireur a-t-il été cloué au pilori de cette façon? Alors pour rappel, le récit nous présente Michel Perra, interprété par Philippe Léotard, qui joue un fils de collaborateur, Il monte chez sa grand-mère sur le plateau du Vercors afin d'attendre que la guerre se termine sans lui. Mm-hmm. Mais en juillet 1944, les troupes allemandes investissent le plateau et assassinent sa grand-mère sous ses yeux. Forcé de s'enfuir, il rejoint un petit groupe de résistants et de civils et va devoir lutter pour survivre pendant 3 jours et 3 nuits.
En 1972, alors que le long métrage est prêt à sortir, la production fait faillite et la seule copie du film se retrouve bloquée. Jean-Max Kos parvient à racheter la copie au milieu des années 80. Le Franc-Tireur doit être présenté lors du gala de clôture du festival du film de Grenoble en 1986. Malheureusement, le journal Le Dauphiné Libéré va torpiller cette idée en publiant en première page un article du président des anciens du Vercors. Ce dernier estime que le Franc-Tireur n'est qu'une pantalonnade innommable qui va de ripaille en ripaille, de coucherie en coucherie, de beuverie en beuverie.
Ouais, oui.
Pour les anciens combattants, l'œuvre véhicule une image dégradante de la résistance et ce n'est pas acceptable.
Alors le long métrage est alors déprogrammé et retombe aux oubliettes. S'il a suscité un tel effet, c'est pour une bonne raison. En effet, après la Seconde Guerre mondiale, les longs métrages comme La bataille du Rail de René Clément offraient une vision presque idéalisée de la résistance. Après 68, ce récit a été remis en question avec des films comme La Combe Lucien de Louis Malle, magnifique, ou L'Armée des Ombres de Melville, encore plus magnifique. Oui. Ces œuvres montraient la résistance sous un jour moins glorieux, avec une dimension critique assez acerbe. Alors bien évidemment, elles n'ont pas plu au gouvernement en place, ni aux anciens combattants dont l'image héroïque était écornée.
Ainsi, le personnage de Michel Perra, rejoignant la résistance par instinct de survie, et non pas réel engagement, il a fortement déplu.
Bah oui.
Pour les anciens, les réalisateurs exaltaient une volonté de déconstruire le mythe des héros de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, quand on regarde le film, on voit plutôt des personnages à l'indéniable humanité tentant de faire ce qu'ils peuvent pour résister avec leurs petites armes dans un contexte de guerre totale.
La distribution comprend, outre Philippe Léotard dans le rôle de Michel Perra, Estelle Blin, Roger Riffard et Roger Lumont. Léotard, dont c'était le premier grand rôle, était un homme qui ne laissait pas indifférent. Voici ce qu'en disaient Jean Becker, Catherine Tasca, Yves Boissé. C'est une archive de l'INA.
Pour moi, c'était un homme surtout d'une grande élégance morale et physique. C'était, avant d'être un acteur, ce qu'il était dans mon film, c'était surtout un poète.
Il n'aimait pas notre monde, il lui reprochait beaucoup de choses, et en particulier sa dureté, et il avait trouvé des refuges dangereux pour lui. Moi, je garde de lui un souvenir très, très généreux. Je disais, il se mettait en danger, mais en même temps, il donnait beaucoup à tous ceux avec lesquels il travaillait.
Il a eu quelques histoires d'amour flamboyantes et sublimes dans sa vie, mais quand un amour se brisait, il ne se pardonnait pas à la limite de ne pas d'y survivre. Il aurait voulu mourir avec cet amour.
Tout ça pour ça, tout ça pour ça.
Alors, comme on peut l'entendre à l'instant, Philippe Léotard était un acteur de talent, mais aussi un chanteur, n'est-ce pas Patrick ?
Oui, tout à fait, oui.
Eh bien, en 96, il chantait Saturne de Georges Brassens.
Tout à fait.
Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose, pour se désennuyer un peu, il joue à bousculer les roses. Le temps tue le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses. Le temps tue le temps comme il peut. Cette saison, c'est toi, ma belle, qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux.
c'est pas vilain les fleurs d'automne. Et tous les poètes l'ont dit. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Viens encore, viens ma favorite, descendons ensemble au jardin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur toutes tes grâces, et pour me les faire oublier, il faudra que Saturne en fasse des tours d'horloge de sablier. Et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller.
Ah, ça fait du bien, oui. Un peu de poésie dans ce monde de brut.
Allez, on repart.
Allez,
on Les Chiens de paille.
Ah oui.
Septième long métrage de Sam Peckinpah.
C'est de la poésie aussi.
Et le premier qui ne soit pas un western.
Ouais.
Avec ce film, Peckinpah renouvelle sa réflexion sur la violence à travers l'histoire d'un jeune couple confronté à l'hostilité du village où il est venu s'établir pour trouver le calme et la sérénité. Patrick, un petit pitch, si vous le voulez bien.
Avec grand plaisir, Jean-Jacques. David Sumner, jeune mathématicien américain, vient habiter avec sa femme britannique, Amy, dans l'arrière-pays anglais, dans le petit village de Wokerley, dans le Cornouailles. David souhaite y travailler au calme pour se concentrer sur ses recherches sur la structure stellaire et les mathématiques appliquées. Mais son arrivée n'est pas du coup du goût de Charlie Venner, le petit ami d'ami.
L'ex-petit ami d'ami.
C'est pas facile à dire, hein. Non, l'ex-petit ami d'ami.
C'est pour ça que c'est vous qui le dites.
C'est pour ça que c'est moi qui le dis. Lui et ses amis, encore un ami, voient d'un mauvais œil qu'un étranger ait épousé l'une des leurs. David engage des jeunes ouvriers du village pour réparer la ferme qui appartenait au père d'ami. Les ouvriers finissent alors par tourmenter le couple non violent. Bande annonce.
Maintenant, ça suffit. Si vous ne partez pas tout de suite, ça va très mal se terminer. Je vous le promets.
David Sumner, un homme qui toute son existence a pris la fuite, refusant la lutte pour la vie et ses affrontements.
Ces types sont complètement sous et ils sont cinq.
Avec sa jeune épouse, il s'est réfugié dans la campagne anglaise.
Je me souviens d'une époque, Madame Sumner. Vous auriez fait n'importe quoi pour me garder.
Charlie, enlève ta main.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Embrasse.
T'es vraiment une bête.
Il croyait y découvrir un havre de paix. Il dut y affronter les plus hautes violences.
Je leur tiendrai tête. Je suis chez moi ici.
Non ! Non !
Je n'accepterai aucune violence à l'intérieur de cette maison.
Sam Peckinpah, l'auteur de La Horde Sauvage, atteint les sommets de la violence dans Les Chiens de paille.
Alors, Les Chiens de paille est une expérience limite, parce qu'elle met à l'épreuve la figure d'un intellectuel qui pourrait se prétendre humaniste en le confrontant à une bourgade de rustres bien décidés à l'essorer, jusqu'à ce que la violence contenue en lui explose au point d'éclabousser les murs. Le portrait des autochtones est d'une brutalité inouïe, leur regard, leur rire, leur sous-entendu suinte le mal et l'envie infantile d'en découdre. Dans les bars, à l'œuvre sur la toiture du protagoniste Dustin Hoffman, ils instaurent un malaise insupportable et un bourbier duquel le citadin ne pourra pas sortir. David est un homme bon, ce qu'on pourrait appeler un homme gentil, un mec bien, quoi. Il n'a pas d'agressivité en lui, il essaye d'arrondir les angles. Par réel humanisme ou par lâcheté? Alors, sa femme, la ravissante Amy, revenue au pays, se targue d'être la femme qui a réussi et se moque de David pour son côté trop tendre, quoi. Elle qui aimerait bien qu'il fasse sortir le loup que chaque homme entretient.
Le point de vue de
Peckinpah
est de montrer que la violence est partout. En chacun d'entre nous, il a réussi plutôt bien.
Oui.
Il dépeint la lente descente aux enfers de David, un remarquable Dustin Hoffman.
Comme souvent, hein.
Oui, mais tout à fait. Avec un sadisme qui pose question, il mélange tout l'espace en vue d'un encerclement. par la présence permanente des hommes de main, par celle aussi du voyeurisme, qui voit le couple épié en permanence, et enfin, par les échecs de leur intégration, permettant de donner aussi une part de tort aux protagonistes, qui n'hésitent pas à provoquer le curé local.
Bon alors, comme notre épisode est consacré à la censure, voilà. Bien, le film Les Chiens de paille a été classé X pour sa sortie en salle au Royaume-Uni, et interdit aux moins de 18 ans dans la version coupée sortie en 1995. La longue scène de viol dérangeante, comme elles le sont toutes, d'ailleurs, n'est pas étrangère à cette décision, mais la violence inhérente à la vie dans ce coin de l'Angleterre y prend toute sa part. Bon alors, la musique du film a été composée par qui ? Eh bien par Jerry Fielding.
Jugé blasphématoire et censuré avant même sa sortie prévue en 1966, Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot, réalisée par Jacques Rivette, est une adaptation du roman épistolaire de Denis Diderot. Il dépeint l'envers du décor de la vie des couvents du XVIIIe siècle, congrégations qui ont parfois pu enfermer des jeunes femmes contre leur gré.
Suzanne Simonin est envoyée de force au couvent par des parents qui ne peuvent financièrement pas lui constituer une dot. Destin tragique pour une jeune fille sans vocation religieuse qui a dû renoncer à sa liberté en prononçant ses vœux malgré elle. Suzanne se meurt peu à peu dans la vie du couvent où, après avoir d'abord connu la bienveillance, elle déchante en découvrant tour à tour maltraitance, névrose et débauche, bande-annonce.
Je suis ici contrainte et forcée. Je n'ai aucune vocation.
Suzanne, combien vous êtes belle. Est-ce que vous sentez en vous-même des mouvements, des désirs ?
Non.
Ta supérieure doit connaître toutes tes pensées.
Je demande à être libre.
Quoi, sœur Suzanne, vous voulez nous quitter ?
Oui, madame. Avez-vous prévu les persécutions qui vous attendent ?
Mes sœurs, l'une de vous a péché gravement contre la sainte obéissance.
Vous êtes donc coupable ?
De quoi ?
De tout !
Je n'ai rien fait qui puisse offenser ni Dieu ni les hommes.
C'est donc un parti pris, vous voulez vous perdre ?
Je ne sortirai d'ici !
Non !
Voilà, alors, en 62, tout commence bien d'ailleurs. Hein, le scénario est soumis à la commission de contrôle qui reçoit un avis ? Eh ben non, défavorable.
Bah oui, ça commence pas bien. Ça, non,
finalement. Les rumeurs grandissantes poussent le général de Gaulle à la censure du film pour outrage à la religion catholique. Il ne sera finalement projeté, le film, à l'écran qu'en 67 et interdit aux moins de 18 ans. Cependant, des religieuses, des associations de parents d'élèves de l'enseignement privé et divers responsables catholiques font pression pour le faire interdire. La présidente de l'Union des supérieurs majeurs de France, eh bien, elle écrit au ministre de l'Information, Alain Perfit à l'époque, pour lui faire part de son inquiétude à l'égard de, je la cite, d'un film blasphématoire qui déshonore les religieuses. Je partage entièrement les sentiments qui vous animent, lui répond le ministre, qui utilise tous ses pouvoirs pour empêcher le film de nuire à l'image des religieuses. De nombreuses personnalités publiques s'insurgent. Jean-Luc Godard interpelle André Malraux, ministre de la Culture, dans une lettre ouverte. Malraux ne peut ou ne veut empêcher le film d'être sélectionné au Festival de Cannes en 67. Finalement, la décision d'annuler la censure est définitivement confirmée par le Conseil d'État en 75, bien après la sortie en salle. Le film sort le 26 juillet 67. Fort de son aura scandaleuse, il enregistre 165 000 entrées en 5 semaines. Le roman de Diderot en profite aussi de ce succès et il est réédité plusieurs fois. Bon, il n'y a ni d'incident majeur ni de tumulte. Le public découvre un film sobre et fidèle au roman dont il est l'adaptation, ne méritant sans doute pas la publicité sulfureuse qui a entouré sa sortie et que Jacques Rivette expliquera ne jamais avoir cherché d'ailleurs.
Dans le rôle de Suzanne, on retrouve Anna Karina, oui. Liselotte Pulver, Micheline Presle, Francine Berger, Francisco Rabal, complétant la distribution.
Francisco, il est espagnol, il n'est pas italien. Confondons pas. Oui, je vous ai coupé, pardon.
La religion a de toujours été un bon terreau pour la chanson. Oula. Ainsi, en 79, Anne Sylvestre chante « La faute à Ève » qui reprend le personnage d'Ève qui a désobéi à Dieu en mangeant du fruit défendu.
Manger des pommes.
Poussant Adam au péché originel. De cet épisode biblique proviendrait une tradition visant à attribuer la faute aux femmes. La chanson pousse à l'absurde ce postulat antiféministe en reprenant avec ironie des discours qui prêtent tous les torts aux femmes, même dans les conditions les plus manifestement incohérentes.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute d'Ève, il n'a rien fait lui, Adam. Il a pas dit femme, je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventaire, qui l'a volée, c'est toi, Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit, mais non, papa, c'est moi. Mais d'ailleurs, elle était pas bonne, faudra laisser mûrir, je crois. Alors c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit, attends, je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève, si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique, au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule, il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule, avec trois bonhommes à la fois. Là c'est bien la faute à Ève, elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa, pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. Qu'on se repasse et puis qui dure, elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, pareil que ça nous est naturel. les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah,
pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Eh bien, sur 91.3, O2 Radio, bien entendu.
Extraordinaire, Antibes.
Je ne connaissais pas cette chanson, elle est incroyable.
Magnifique.
Ah, c'est de l'histoire sociétale condensée. Bon alors, Patrick.
Oui, Jean-Jacques.
Vous êtes là. Oui. Vous nous l'avez dit en ouverture de l'épisode, oui. Le cinéma censuré n'est pas une pratique née au XXe siècle.
C'est vrai.
En 1896, le cinéma a un an, mais il est déjà au cœur d'un énorme scandale. Sur l'écran, May Heroine et John C. Rice s'embrassent chastement en gros plan.
Oh,
d'une durée de 47 secondes, le film s'appelle The Kiss.
Non.
À la vision de ce baiser, les ligues de vertu s'époumonnent et le public est scandalisé.
Je comprends.
La censure est obligée d'intervenir. Pour la première fois, mais pas la dernière. Tiens, plus près de nous, le fameux « Messieurs les censeurs, bonsoir » qu'on a entendu tout à fait au début de l'émission, n'est-ce pas ? Eh bien, il illustre au mieux l'histoire tumultueuse des rapports entre le cinéma et la censure. C'est un salut provocateur que Maurice Clavel lança le 13 décembre 1971 en quittant le plateau de l'émission « À armes égales ».
À quoi ?
À armes égales, après avoir constaté que le film qu'il avait réalisé avait été amputé lors de sa présentation à l'antenne de quelques images par l'ORTF.
En vérité, les censures sont de toutes sortes, politiques, économiques, militaires, judiciaires, religieuses, morales, sans oublier l'autocensure. Les motifs avoués sont les mêmes partout, depuis toujours, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des intérêts de l'État, la conformité aux normes de comportement sexuel, familial, social, le respect de la religion, la protection de la jeunesse. Et bien sûr, il y a les motifs inavoués. Le motif religieux, le motif politique, ménager les groupes de pression, contrarier un ennemi, plaire à un allié, la censure politique qui peut avoir des arrière-pensées économiques, assurer la vente à l'export, limiter la concurrence à l'import, rentabilité politiquement correcte. Bref, il y a de quoi faire pour messieurs les censeurs.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, 2-3 fois dans l'année? Moi, je trouve que c'est dingue.
Qu'est-ce qui se passe?
Oui, alors il se passe que maintenant, on va faire une chronique qui n'a pas du tout été censurée, n'est-ce pas? C'est une chronique qui va parler des films que nous allons pouvoir regarder confortablement.
Si on veut, bien sûr, si on veut, si on peut.
Non, il faut les regarder.
Ah oui, si on a une télé, déjà, si on n'a pas de télé, on ne peut pas les regarder.
Hein. On ne peut pas les voir tous. Hein.
Pas tous en même temps.
Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, on va sur des chaînes de télévision. D'accord. Et on regarde des films dont nous allons vous parler et qu'on pourra voir sur nos canapés.
Chacun un, voilà. Alors, on commence par qui?
On commence par celui qui veut.
Allez, Anne-Lise.
Alors moi, je commence par dimanche 1er mars. Avant le dernier jour de la semaine, sur Arte, à 21h, un grand film, un très grand film.
Il dure
beau
combien
film.
De temps?
Un film qui dure longtemps,
de
qui dure plus de 3 heures.
De qui?
De et avec Kevin Costner.
Danse avec les loups.
Oui, bien vu.
Encore?
Eh oui. Un grand film, des paysages, on en a parlé ici dans cette émission.
On en a parlé
grande musique. Et
beaucoup d'Indiens.
Beaucoup d'Indiens.
Et beaucoup de bisons.
Oui, et une belle parole sur. On en a besoin aussi actuellement sur l'acceptation des autres, l'acceptation de la différence, l'acceptation de tout ce qu'on est en tant qu'être humain.
Très bien.
Non, mais le loup, c'est une métaphore.
Et ça, rappelez-moi, c'est sur quelle chaîne?
C'est sur Arte, 21h,
c'est dimanche.
Et c'est dimanche soir, 1er mars.
Ah ouais,
très bien.
Voilà.
Alors,
deux
ça,
et
c'est
avec
votre
Kevin
choix
Costner,
après.
Bien sûr.
À vous, Jean-Jacques,
à
peut-être
moi oui, alors, moi, ce sera juste un peu avant, ce sera vendredi 27 février.
Ah oui, le jour d'anniversaire.
De qui?
De ma fille.
Ah d'accord, ok.
À 22h40.
Oui.
Un peu tard pour le gâteau, quand même.
Ouais, c'est un peu tard.
Bon, c'est Canal Plus Cinéma qui nous propose La Chambre de Mariana d'Emmanuel Finkel. Finkel, un film de l'année dernière qui est assez récent. Alors, il nous transpose en 1943 en Ukraine pendant l'occupation des nazis. Alors, il y a une mère juive qui veut sauver Hugo, qui est son fils juif, donc. elle veut le sauver de la déportation. Et alors pour cela, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle confie l'enfant à son amie d'enfance, Mariana, qui est une prostituée, qui vit dans une maison close. Et donc Hugo va se cacher dans le placard de la chambre de Mariana. Et évidemment, son quotidien va être fait des bruits qui l'entourent et des scènes qu'il devine, qu'il imagine, qu'il fantasme, lui, depuis son placard. Voilà. Ça donne lieu à une formidable performance de Mélanie Thierry dans le rôle de Mariana. Vous savez qu'elle s'est préparée pendant près de 2 ans pour apprendre l'ukrainien.
D'accord.
Ah oui.
Et oui, ça c'est de l'investissement.
C'est pas rien. Hein.
Et à noter que le tournage qui devait à l'origine se dérouler en Ukraine, ben, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? La Russie a envahi le pays et le réalisateur s'est replié en Hongrie. Non sans évoquer indirectement le conflit actuel, évidemment.
D'accord.
Voilà, dans la chambre de Mariana, vendredi 27 février à 22h40 sur Canal Plus Cinéma.
Bien. Très bien, très bien.
Patrick, à vous alors.
Eh bien, alors moi, je vais remonter encore dans la journée, dans la semaine.
Pas trop loin. Encore.
Moi, je vais aller jeudi soir,
très bien.
Le jeudi 26. Alors, c'est un peu tard.
Encore ?
C'est un peu tard.
Un peu tard, de 14 juillet.
C'est un film, vous voulez dire ?
Non, c'est à 23h05 sur Canal Plus Grand Écran.
C'est de plus en plus tard.
Un film de Jonathan Demme.
Oui.
Avec
Le silence des agneaux.
Non.
Ah bon.
Avec Tom Hanks.
Ah oui.
Denzel Washington.
Ah non, la ligne verte.
Nine.
Denzel Washington.
Yes. Jason Roberts. Antonio Banderas.
Bon alors c'est quoi ça ?
Alors je vous le donne. Philadelphia.
Ah oui. Ah, oui.
Musique
magnifique
de
film.
Boss.
Ah oui, Denzel Washington. Eh ben oui.
Film. C'est l'avocat.
Oui, tout à fait.
Qui est homophobe et qui va quand même accepter de défendre l'avocat Andrew Beckett, qui vient de se voir confier une des plus grosses affaires de sa maison, du cabinet juridique. Mais il est atteint du sida. Et peu
oui.
après, alors que les premiers signes apparaissent sur son visage, ses patrons le mettent à la porte en invoquant une faute professionnelle. Alors, bien décidé à faire reconnaître qu'ils l'ont licencié à cause de sa maladie, mais de son homosexualité en violation de la loi contre les discriminations, Andrew se met en quête d'un confrère qui accepte de le représenter. Alors, bien qu'homophobe revendiqué, Joe Miller, donc le formidable Denzel Washington, relève finalement le défi. Alors, c'est un film extraordinaire qui est porté par un duo d'acteurs au sommet de leur art, donc Tom Hanks, qui n'est pas mon acteur favori, mais qui est d'une puissance rare dans ce film-là.
Incroyable. J'adore, moi, c'est la scène de quand il lui, avec la musique, l'opéra, quand
ouais.
il lui raconte. Oh, c'est incroyable.
Et donc, c'est une réflexion puissante sur la maladie et les croyances de cette époque, quand
et
même.
Oui.
Hein. Et bon, en espérant que les choses aient changé, j'ai des doutes.
Ça dépend où.
Le sida, on le maîtrise un peu mieux.
Le sida, on le maîtrise un peu mieux. L'homophobie, toujours pas.
Non. Voilà. Non, toujours pas. Bon, voilà, c'est tout pour moi.
Monsieur
merci.
Gentil, merci de nous donner tous ces conseils,
oui.
n'est-ce pas
et non, alors, je vous en prie.
Allez, on continue.
Ça fait plaisir. Allez.
Sur le chemin de la censure. Enfin,
allez.
Pas de véritable censure, d'ailleurs, pour le film à venir. Mais
ah
plutôt
bon
un gros scandale à sa sortie.
Ah bah oui.
En 73, la projection de La Grande Bouffe de Marco Ferreri reste l'une des plus chahutées de l'histoire du Festival de Cannes. L'objet du scandale, c'est ce que raconte le long métrage. Soit la décision de 4 amis de s'enfermer dans une villa pour se livrer à un suicide collectif en mangeant jusqu'à ce que mort s'en suive. Le festin auquel sont conviés des prostituées qui finissent par s'enfuir s'achève avec le décès des héros.
Alors en 72, la carrière de Marco Ferreri est en panne.
On peut le dire.
Illégal et imprévisible, il est fui par les producteurs. La Grande Bouffe sera financée sur fonds propres. Le film est tourné dans un hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris. Mmh. Les producteurs attisent la curiosité de la presse en dévoilant quelques photos suggestives. Mais avant même la sortie du film, des bruits ont couru. Les journalistes sont prêts à l'assaut. Pour incarner les 4 personnages principaux, 4 monstres sacrés.
Oui.
Hugo Tognazzi, en restaurateur. Michel Piccoli, en réalisateur de télévision. Philippe Noiret, en juge. Et Marcello Mastroianni, en pilote de ligne. Andrea Ferréol, encore inconnue du grand public, joue une institutrice grassouillette qui les accompagne dans ce voyage sans retour. Marco Ferreri l'a choisie pour ce rôle à condition qu'elle grossisse de 25 kilos en 2 mois.
Ce
oui, madame.
Fait, ce qu'elle a fait.
Ce qu'elle a fait, bien sûr.
La projection du film au Festival de Cannes en mai 73 provoque un tollé général. Ingrid Bergman, présidente du jury, s'indigne que la France ait cru bon de se faire représenter par un film des plus sordides et des plus vulgaires du festival. Attirée par l'odeur du scandale, près de 2,5 millions de spectateurs se ruent dans les salles obscures en France. Le film déchaîne une polémique considérable lors de sa sortie je vais y arriver.
Non, je pense pas.
Lors de la sortie du film pour l'émission de l'ORTF aujourd'hui, madame, oui. Patrice Laffont, réaliser un micro-trottoir. Les spectateurs du film y étaient questionnés à l'entrée et à la sortie du cinéma avec des réactions diverses.
Qu'est-ce qui vous a incité à aller voir ce film ?
Bien, on m'a dit que enfin, je sais que c'est avec de bons acteurs et que c'est assez distrayant.
Vous voulez vous faire une idée ? Passage à Paris, je vais me faire une idée, tout simplement.
Même si on le critique, si on le trouve il n'est pas bien pour différentes raisons, c'est pour une raison, moi j'aime bien faire une opinion personnelle.
Ah mais je ne suis pas encore entré pour le moment.
Mais pourquoi vous destinez-vous à aller le voir ?
Je pense aller le voir parce que c'est un film dont on parle suffisamment pour avoir une opinion claire.
Je ne sais pas, parce que j'en ai entendu parler et comme j'aime bien manger, c'est un film qui m'intéresse.
J'ai envie de le voir, parce qu'il faut le voir, je pense.
Ah, c'est un film qu'il faut voir ?
Oui, je crois. C'est une autre provocation.
Vous êtes pour la provocation ?
Oui.
C'est pas simplement la question de pornographie ou bien un film osé, non.
Non, c'est pas tellement le côté scabreux, c'est le côté sorte de suicide, c'est assez original.
On m'a dit beaucoup de choses sur ce truc, alors peut-être ça va m'exciter un petit peu.
Je suis iranien.
Est-ce qu'on passera un film comme ça dans votre pays ?
Non, absolument pas, absolument. Non, non, c'est
merci.
Un film osé.
Mais c'est épouvantable, je vois pas pourquoi j'ai payé 1300 francs pour voir un truc pareil. Pour entendre les gens péter, rôter, tout ça. Faire l'amour, non, c'est vraiment dégueulasse.
Je le trouve très, très choquant.
Vous êtes très choqué ?
Oui. S'il y a eu tant d'histoires, c'est peut-être que le film arrive à temps, comme disait Piccoli à la télévision l'autre soir.
Pour répondre à votre remarque hors micro, Anne-Lise, oui, 1300 francs, c'est 1300 francs. Quoi. Voilà, ça fait que c'est le prix d'une place de cinéma à l'époque.
À l'époque.
Un franc.
1300 francs. Mais bon, je vous expliquerai.
Ça fait 0, après.
Non, ça fait 13 1300 euros. Francs. 1300 francs. Vous m'emmêlez.
Oui, mais ancien franc.
Mais oui, nous sommes au siècle
mais
dernier.
Mais c'est pour ça, moi, je voulais voir en francs, en fait, en euros.
Il n'y a plus de francs.
Oui, en euros maintenant, parce que le franc est supprimé
mais
depuis un moment.
Justement, je voulais le transférer en francs.
Mais vous transférez ce que vous voulez. Enfin, le film se pose donc comme une critique de la société de consommation, vous l'avez compris, sous couvert de comédie déjantée. Il dénonce indirectement le faste et l'abondance portées à leur comble. C'est Jean Coe, polémiste, critique, qui déchaîne l'anathème dans Paris Match. Le journaliste déclame ceci.
Honte pour les comédiens qui ont accepté de se vautrer dans pareil bout qui n'en finira pas de coller à leur peau. Honte pour mon pays qui a accepté d'envoyer cette chose à Cannes afin de représenter nos couleurs. Honte enfin pour notre époque dont la faiblesse tolère, finance, encourage, dévore et déglutit de pareils pâtés d'excréments. Philippe Noiret répondra... Nous tendions un miroir aux gens, ils n'ont pas aimé se voir dedans. C'est révélateur d'une grande connerie. Et la musique, donc, elle, est signée Philippe Sard.
Thank you. Le juge Fayard, dit le shérif, est un film de procès français réalisé par Yves Boisset, sorti en 77. Il est inspiré par l'assassinat du juge François Reynaud, survenu le 3 juillet 75. Jean-Marie Fayard travaille comme juge d'instruction dans une petite ville française. Il a pour seul allié l'inspecteur de police Marek et Steiner, un collègue juge d'instruction.
Alors, s'inspirant d'affaires de l'époque, Boisset et son scénariste créent de toutes pièces son personnage de juge sans peur, qui se soulève contre l'autorité et combat les injustices en ignorant les menaces dont il est la cible. Notez que le sobriquet utilisé n'a rien d'anodin. Mandaté sur une simple affaire de braquage, il se rend vite compte que le poisson est bien plus gros qu'il n'y paraît. Pour filer la métaphore, il ne va pas lâcher la canne pour se le laisser fuir, mais s'accrocher au moulinet jusqu'à le remonter complètement au risque d'y laisser des plumes. Il n'y pense même pas. Même ses relations privées passent après.
Patrick Dewaere, oui. Le shérif, est alors dans une période personnelle très difficile et donne une ampleur et une profondeur à Fleur de Peau au personnage à la fois fébrile et en retrait. Il lui donne cette instabilité inquiétante. Il livre une prestation éblouissante à la hauteur de son immense talent d'acteur. Yves Boisset s'est d'ailleurs rendu compte sur ce tournage que Dewaere n'interprétait pas un rôle, mais l'incarnait réellement. Le vivait jusqu'au bout. Ce qui aura des conséquences importantes sur la vie de l'acteur, qui connaîtra des phases de dépression avant de se suicider en 82.
Alors, le réalisateur Yves Boisset est connu pour ses positions engagées. Et il nous livre ici un pamphlet décapant, sombre et inquiétant, mais d'une grande lucidité, qui ne vire ni dans l'hystérie complotiste, ni dans le mélodrame mielleux. Au contraire, le film en dit long sur l'organisation de nos sociétés et sur l'humanité en général. Et ce n'est pas vraiment beau à voir tout ça, n'est-ce pas? Les gens du SAC, rappelle le SAC, Service d'Action Civique. C'est-à-dire des gens qui étaient au service du général de Gaulle, pour le protéger au départ. Donc les gens du SAC, chers à Charles Pasqua, tiens, ont bien tenté de retarder la diffusion du film, à tel point qu'à la suite d'une décision de justice, le nom du SAC est remplacé par un bip lors de la sortie du film en salle. Dans l'interview qui suit, Yves Boisset évoque le SAC, non sans une certaine ironie.
Il y a une association régie par la loi de 1901, le SAC, Service d'Action Civique, pour ne pas la nommer, qui a cru se reconnaître en termes qu'elle juge péjoratifs dans un ramassis, puisque là je reprends ses propres termes, en laissant la responsabilité de ce qu'il a dit au président de cette association, M. de Bizet, qui a cru se reconnaître dans le ramassis de truands, de proxénètes, d'assassins, de policiers corrompus et de politiciens véreux qui étaient présentés dans le film. Il a cru y reconnaître ses membres et, dans une certaine mesure, lui-même. Je laisse l'entière responsabilité de cette affirmation. Et il nous a assigné en référé pour essayer d'empêcher la sortie du film. Il n'a pas tout à fait réussi à empêcher la sortie du film, puisqu'il a simplement obtenu d'une justice extrêmement complaisante un certain nombre de coupes destinées à, théoriquement, occulter le rôle du SAC dans l'histoire. Cela dit, comme toujours, vous savez, quand on pisse contre le vent, on s'expose à de graves ennuis, et la célèbre autruche qui mettait sa tête dans le sable, on n'en a pas moins reçu de très nombreux coups de pied dans le cul. Et c'est un peu ce qui est arrivé à M. de Bizet et à son association de 1901, le Service d'Action Civique, puisque s'ils cherchaient à être discrets, je crois qu'ils ont gagné, puisque s'il y avait encore des Français qui ignoraient les méfaits du SAC, maintenant au moins ils sont parfaitement au courant.
Et bam. Voilà qui ne mâchait pas ses mots. C'est très intéressant des cinéastes à ce point engagés. Alors en voyant le film, vous pourrez apprécier les interprétations tout en finesse de l'inspecteur Marek, qui est joué, on en a parlé tout à l'heure, par un Philippe Léotard, un acteur qui ne sera jamais vraiment récompensé de son grand talent, un peu comme Dewaere d'ailleurs. On peut également noter la présence d'un second rôle assez fréquent du cinéma français, l'atypique Jean Bouise. Vous vous souvenez de Jean Bouise, ce grand Flandrin?
Oui, tout à fait.
Le compositeur de la bande originale, Philippe Sard, a collaboré à 6 reprises avec Yves Boisset, et cela a notamment donné Boisset Panema.
Thank you. tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges? C'est génial ce genre de spectacle, hein?
Ça, bon. C'est vrai, ça.
Oh, ben, bien sûr que c'est vrai. Alors, dites donc, vous savez, il y a des films anciens qui ont été censurés, notre nom.
Oui.
Et peut-être que dans les films à venir qui vont sortir, il y en aura des censurés ou pas, on sait pas pour l'instant. En tous les cas, ils sortent demain matin.
Demain.
Et alors, nous avons décidé, comme chaque fois que l'occasion s'en présente, de vous inviter à aller en voir un, Patrick.
C'est-à-dire tous les mardis, en fait. On dit tous les mardis.
On fait ça à peu près tous les mardis.
Pas tous les mardis, oui. Non.
Sauf
pas...
quand on est en vacances.
Non, il y a des émissions, on n'en fait pas, monsieur.
Ah bon, vérifiez, c'est vrai, monsieur.
Vérifiez vos fiches.
C'est vrai, monsieur, je vérifie mes fiches.
Voilà.
Alors, moi, vous voulez que je vous parle d'un film, peut-être?
Non, Anne-Lise, d'abord.
D'accord. Anne-Lise, oui. D'abord. Très bien.
Ah oui,
merci,
moi,
Anne-Lise.
D'accord.
Oui,
alors, moi, c'est pas un film, en fait, véritablement.
Bon, alors, donc, Patrick, allez-y.
Ben non, c'est pas un film. En fait,
c'est pas un film non plus.
C'est six courts-métrages. Bah, au niveau du film, j'étais pas trop motivée. Oui. Par contre, là, c'était six courts-métrages d'animation qu'on va retrouver de partout dans le monde. Ça s'appelle Esprit Rebelle au pluriel. C'est un tournesol hors norme, un gnome déprimé, une petite fille intrépide, une fourmi rêveuse, des créatures gloutonnes qui
ça
donnent
bien,
le
Anne-Lise.
Ton de ces courts-métrages.
C'est de la
petits,
bonne. Hein.
Tout petit. Pour grand et très grand. C'est des courts-métrages qui viennent de France, de Belgique, de Russie, de République tchèque, de Suisse et du Japon. Ça dure à peu près trois quarts d'heure. Alors, c'est à partir de 3 ans. Et en fait, ces petits moments, ils mettent plein de courts-métrages côte à côte qui sont absolument géniaux,
d'accord,
qui permettent aussi d'ouvrir un peu son regard à ce qui se fait à travers le monde en termes d'animation. Sur des petites histoires,
oui,
on peut y aller avec...
Approche, quoi, pour les...
Ouais.
Gamins, quoi.
Et on peut y aller avec les enfants,
ah,
mais en
sûr.
Tant qu'adulte, on se régale également.
Ah oui, vous avez gardé votre âme d'enfant.
Et moi, je l'ai trouvé incroyable, de poésie, d'ingéniosité, aussi de travail créatif sur ces films-là. C'est vrai que souvent, on les oublie, on les relègue au terme, bah, c'est pour les enfants, mais derrière, il y a un vrai travail incroyable de recherche, et c'est à voir. Et en général, ces petits courts-métrages-là, ils sont absolument géniaux.
Mais
donc,
comment s'appelle l'opération?
Alors, le film s'appelle Esprit Rebelle,
d'accord,
au pluriel. Et,
on peut voir ça partout.
On va retrouver ça à peu près partout.
Ah bon,
ça va
d'accord.
être
enfin, dans les salles de cinéma.
Dans les salles de cinéma.
Ouais,
voilà, surtout le matin.
Bien. Parfait. Et vous
Patrick.
Alors moi, c'est pas un film non plus.
Ah bah bravo, génial.
Non, moi, c'est un documentaire.
Ah bah super.
En fait, j'ai deux documentaires à vous proposer.
Donc,
je vais choisir un.
Voilà, le premier.
Alors, le 2.
D'accord.
Ce sera le 2.
Très bien.
Qui s'appelle Orwell 2+2=5.
Ah oui, d'accord.
Ah bah oui.
Oui, oui.
Hein, c'est un documentaire de Raoul Peck, qui, avec les voix d'Eric Ruff et de Damien Lewis.
Yeah.
Alors, en 49, George Orwell termine ce qui sera son dernier, mais plus important, roman. Vous l'avez noté, 1984. Orwell 2+2=5 plonge dans les derniers mois de la vie d'Orwell, dans son œuvre visionnaire, pour explorer les racines des concepts troublants qu'il a révélés au monde dans son chef-d'œuvre dystopique. Le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother. Alors, ce sont des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd'hui.
Oh, oui.
Je ne sais pas vers qui je me tourne. Peut-être vers un gars qui envoie des fusées dans l'espace.
Entre autres, parce qu'il y en a pas mal.
Il n'y a pas que lui. Hein. Big Brother, en fait, est un peu partout. On
fait.
Est surveillé de tout le temps et par tout le monde. Et donc, je crois que c'est un documentaire extrêmement intéressant et important à voir en cette période troublée,
très
mesdames
bien.
Et messieurs.
Très bien. Alors, moi, ben,
c'est un film.
Non, c'est pas. Enfin, si, c'est un film, mais un ancien film qui ressort demain.
Bah, super.
Mais oui, pourquoi
soyez
pas secteur, Anne-Lise. Le film, c'est Nosferatu, fantôme de la nuit, de Werner Herzog.
Ah bah oui, grand film.
Alors, rappelez-vous, on revient au 19e siècle, et là, on a affaire à Jonathan Necker, qui est un agent immobilier, qui sera en Transylvanie pour, vendre un manoir à qui? Au comte Dracula. Et alors, sur la route, évidemment, les villageois qui sont terrifiés lui disent « Non, n'y allez surtout pas ». Mais lui, il est têtu, ce Jonathan, et il y va. Et il rencontre Dracula. Et au moment de la signature, Dracula aperçoit un portrait de la fiancée de Harker, qui est le sosie parfait de sa défunte épouse à Dracula. Donc Jonathan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être fait prisonnier, et le comte va se rendre à Londres pour retrouver la jeune femme.
Tout à fait.
C'est terrifiant tout ça.
C'est
d'autant plus terrifiant que le film, c'est avec Klaus Kinski, qui joue qui? Dracula, évidemment.
Dracula, évidemment.
Isabella Gianni, qui joue la fiancée, Bruno Gantz, qui joue Jonathan, et puis on retrouve aussi Roland Topor et Jacques Dufilho. Voilà, c'est un film qui est sorti en 79 et qui ressort. Alors, c'est un remake du film muet Nosferatu le Vampire, vous savez, réalisé en 22 par Murnau. Ouais. Alors, il faut dire qu'en 79, à sa sortie, le film a eu un accueil mitigé, voilà. Mais c'est à vous de voir, peut-être que depuis les choses ont changé. Voilà. Nosferatu, Fantôme de la nuit de Werner Herzog.
Parfait. Eh ben c'est très bien. Et bien voilà. Et bien Cinescence est déjà fini.
Allez, enfin,
jusqu'à ce que tout recommence.
Ah, d'accord.
Je vous laisse sortir tranquillement de chez vous pour que vous puissiez courir au cinéma le plus proche. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, ou alors à nous réécouter en podcast sur le site d'Eau de Radio rubrique Cinescence. Pour le direct, on se retrouve la semaine prochaine avec un homme et une femme qui ont marqué l'histoire du cinéma.
Et figurez-vous que ce sera sur Eau de Radio 91.3, bien entendu.
En attendant, nous vous laissons avec la perle musicale du jour dénichée par Jean-Jacques, qui, j'en suis sûr, sera et restera dans vos oreilles au moins toute la journée.
Oui ou pas, il faut voir. Alors en 69, Maxime Le Forestier fait son service militaire au 13e régiment de dragons parachutistes. Oui, mais seulement l'esprit rebelle, il est incapable de s'adapter. Aussi, on décide de l'envoyer achever son service dans un bureau. Mais cet épisode lui inspire une chanson, Parachutiste, un pamphlet antimilitariste qui provoque de vives polémiques. À sa sortie, la chanson est interdite d'antenne sur les radios, mais pas sur Eau de Radio, aujourd'hui, mardi 24 février 2026. Absolument.
Tout à fait, allez, voilà. À mardi prochain, oui. Et en attendant...
Bon vent à tous.
Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est formé ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances, les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tueries, plus de combats, que vas-tu faire? C'est fini, le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, de commander à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade. Mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste.